voudrais d'abord remercier la Maison des Cultures du Monde d'avoir bien voulu m'associer à cet événement dédié au grand artiste Rabih Amroui, mon grand ami aussi. Mesdames et messieurs, chers amis, sur un immense mur blanc, Rabih Amroui a déployé il y a quelques mois 366 images minuscules découpées dans la presse, ou du moins voulant donner l'impression de l'avoir été. Certaines étaient quelque peu plus grandes que les autres, mais toutes étaient en définitive de taille comparable et avaient des cadres identiques. Les couleurs n'étaient pas totalement absentes. Une image en couleur survenait ici ou là, discrètement. Juste de quoi mitiger la monotonie en suggérant des ensembles partiels. Les tonalités du noir ou du gris restaient carrément dominantes. Quelques petits textes s'intercalaient furtivement parmi les images, donnant l'impression d'être eux aussi des coupures de presse. Toutefois, la tentative de lire était vite découragée par un brouillage délibéré des segments, rendant le prétendu texte illisible, mais préservant peut-être une certaine tentation de le déchiffrer. Le texte n'en restait pas moins plutôt une image, comme les autres, qu'une séquence de discours. En somme, ces images si nombreuses et de si petite taille, souvent simplifié jusqu'à n'être qu'un contour rempli de noir, donné par la forte condensation de chacune d'elles, l'impression de n'être que des hiéroglyphes, des mots travestis en images. À partir de là, on pouvait imaginer un jeu, ou même s'y adonner si l'on trouvait la force de maîtriser le vertige que pouvait valoir au spectateur une visite prolongée et laborieuse du mur. Je vous ferai part du jeu que j'ai imaginé le soir de l'inauguration à Beyrouth de la dernière exposition de Rabih Amroui. Ce soir-là, ou peut-être quelques jours plus tard, je ne sais. Je vous dévoilerai aussi, bien sûr, l'analogie que je trouve évidente entre ce jeu et la gestion discursive du blocage chronique qui secoue le système politique libanais depuis de si nombreuses années, depuis plusieurs décennies, pourrait-on même dire. C'est en effet le dit blocage et non pas l'exposition de Rabih Amroui qui est le sujet du discours que je me suis engagé à faire devant votre assemblée d'aujourd'hui. Toutefois, je dois, avant de me livrer à ces rapprochements, somme toute aussi banals qu'édifiants, signaler un fait. Notre artiste a réuni dans un volume épais qu'il a intitulé « Sena Kabis, année bissextile », une autre reproduction des mêmes coupures qu'il avait accrochées sur la grande paroi de la galerie Beyrouthine. Cependant, le livre n'est pas la copie conforme du mur. On peut même aller jusqu'à dire qu'envisagé d'un certain point de vue, il en est l'opposé. Le livre se présente en effet sous les traits d'un agenda, d'un journal, dont chaque feuille représente un jour de l'année. Souvent trop petite pour occuper la page, l'image que celle-ci exhibe paraît plutôt faire figure d'emblème ou d'intitulé du jour. À la rigueur, le mur, considéré à partir de la même distance, peut être embrassé d'un seul regard. On s'approchera ensuite pour en scruter le détail. Le livre, lui, se feuillette. Ces pages se succèdent dans le temps qu'exige son examen. Disons, pour reprendre la fameuse distinction saussurienne, que les images accrochées au mur s'offrent en synchronie, alors que celles que contient le livre s'inscrivent pour le lecteur dans une dimension diachronique. Et c'est bien la synchronie qui convient au jeu que je vais proposer. Il s'agit de regarder à travers une loupe amplifiante une image choisie quasiment au hasard ou de la suréclairer. Du coup, un certain nombre d'images environnantes s'organiseraient autour d'elle. Cette structure improvisée étant trop lâche, on pourrait même la modifier à volonté. Par exemple, réduire le nombre des éléments en rétrécissant le contour spontané, ou bien détailler l'ensemble en lignes se déployant à partir de l'image dominante et contenant chacune un nombre limité d'éléments. Ce dernier procédé s'avère particulièrement intéressant si nous songeons à l'idée que les images exposées sont assimilables à des hiéroglyphes, autrement dit à des mots. Sans disposer de la pierre de Rosette, je suppose que certaines des lignes obtenues seraient convertibles en phrases ou en périphrases faisant sens et que d'autres, dépourvues de cohérence détectable, resteraient analogues à ces petits textes brouillons que présentent quelques coupures éparpillées sur le mur. Il reste possible, bien entendu, surtout si l'on se sent frustré par une première tentative, de tout recommencer en changeant d'image dominante et par conséquent de gestalt spontanée. Avec ces 366 images, le mur offre en effet un nombre illimité de recompositions potentielles, totales et partielles. Quelle ressemblance ce jeu improvisé présente-t-il avec le système politique libanais qui, je l'ai déjà dit, se débat depuis bien longtemps dans une crise aux configurations changeantes, mais apparemment insolubles. D'après moi, cette crise se déploie autour d'un mot, « al-ta'ifiyya », le communautarisme, ou, si l'on veut conserver son autre équivalent français quelque peu vieilli, le confessionnalisme. Dans une configuration s'inspirant de l'exposition de Rabbi Amroué, ce mot occuperait un point central à partir duquel se déploieraient des lignes représentant chacune un arrangement possible des forces politiques de notre après-guerre. Il faut supposer que le mot central peut être plus ou moins agrandi ou éclairé à volonté, qu'un seul arrangement serait mis en relief pour souligner qu'il est le dernier en date et qu'un traitement adéquat serait réservé à chacun des autres afin de marquer sa place dans la série, son importance, etc. Enfin, des parenthèses, des signes d'addition et de soustraction, des flèches, etc., viendraient au besoin transformer l'arrangement en une formule, une équation de la crise à une étape donnée de son évolution. Pourquoi voudrais-je réserver la possibilité de modifier l'éclairage ou le calibre du terme central? Eh bien, c'est parce qu'il subit ce même traitement dans la politique réelle, mais sans jamais se dessaisir de sa centralité. Il y a près de 40 ans déjà, j'ai baptisé ce phénomène « pudeur des communautés ». Ce que je voulais désigner par ce sobriquet, c'était la tendance assez générale des forces politiques libanaises, celles au pouvoir comprises, à dénigrer le système communautariste dont ils étaient partie prenante prétendant le considérer au mieux comme un mal nécessaire et prônant dans la plupart des cas son dépassement dès que certaines conditions seraient réalisées. Je prétendais à l'époque que cette pudeur, loin d'être une pure supercherie, servait à éviter les chocs frontaux entre communautés et ménager un espace pour le pouvoir d'État. La guerre libanaise, dont la dimension intercommunautaire est devenue au fil des années de plus en plus envahissante, a-t-elle eu raison de la pudeur des communautés ? Oui, dans la mesure où elle a mis en selle des forces politiques ouvertement communautaires et accaparant pratiquement la représentation de leurs communautés respectives. Désormais, tout pouvoir d'arbitrage au niveau des institutions risquait, de par la suprématie qu'il requérait, d'être assimilé à une dominance communautaire, dominance dont la guerre avait justement miné la légitimité. Aussi, le pouvoir syrien, dont les troupes flanquées de services de sécurité contrôlaient encore les articulations du Liban, s'est-il arrogé pendant 15 ans la fonction d'arbitre de différents Libanais que souvent il suscitait ou ravivait. Ce faisant, il a également réaménagé, selon son intérêt, la scène politique libanaise en excluant pratiquement les deux formations chrétiennes les plus importantes, en imposant avec la bénédiction du pouvoir iranien une division du travail convenable aux deux formations qui désormais monopolisaient la représentation des chiites, en obtenant la coopération de l'Arabie saoudite dans la reconstruction du pays contre le contrôle de cette opération par un milliardaire sunnite dont les liens avec Riyad étaient indéfectibles. Notons que ces développements eurent lieu à un moment où la suprématie américaine, conséquente à l'écroulement de l'Union soviétique et à la Deuxième Guerre du Golfe, était incontournable. Vite boiteux, le processus de paix israélo-arabe, lancé à Madrid, respirait encore. Cette mise en scène fut progressivement ébranlée d'un côté par la partie chrétienne lésée et de l'autre par la partie sunnite menacée. Écarté du pouvoir par le nouveau président de la République, homme de confiance du parrain syrien, placé à la tête de l'État en 1998, Rafiq Hariri put imposer son retour à la présidence du Conseil suite à son triomphe aux législatives de l'an 2000. En même temps, des personnalités chrétiennes, suivant l'exemple des prélats de l'Église maronite, exigeaient ouvertement, à la faveur du retrait israélien du sud-Liban occupé, le redéploiement stipulé par l'accord de Taif des troupes syriennes en préparation de leur retrait total du Liban, de même que l'achèvement de la dissolution des milices, c'est-à-dire pratiquement le désarmement de Hezbollah. Les archevêques maronites avaient réitéré dans leur appel une troisième revendication promise à devenir un leitmotiv chrétien de l'après-guerre, celle d'une réforme électorale permettant aux chrétiens de choisir eux-mêmes leurs représentants. Scellé par l'échec du sommet Clinton-Assad en mars 2000, la sortie syrienne du processus de paix vient favoriser la convergence de deux courants d'opposition à la domination syrienne, puisqu'elle se traduit par un durcissement de l'attitude syrienne vis-à-vis de l'hégémonie américaine et de ses clients régionaux. Au lendemain de 9-11, Assad fils, qui ne ménage pas son appui en sous-main au djihad irakien contre l'occupation américaine ravive l'hostilité de Washington au régime syrien. En préparation des présidentielles libanaises qui s'approchaient, la résolution 1559 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en septembre 2004, réitère en gros les revendications souverainistes du camp chrétien que Hariri est maintenant suspect de faire sienne. Or, Bachar el-Assad est déterminé à reconduire pour 3 années supplémentaires le président libanais en exercice. Aussi, la résolution onusienne achève-t-elle d'apprêter la scène politique libanaise pour le chambardement de 2005. Pour en revenir au montage imagé de Mrouy, nous pouvons dire que ces années 1990-2005 ont vu la pudeur des communautés faire preuve d'une acuité inégale dans les deux camps, celui du pouvoir pro-syrien et celui de l'opposition à ce pouvoir. Autant le vocabulaire de libération nationale que celui de reconstruction nationale tendaient à dissimuler le caractère communautaire des équilibres du pouvoir, de la résistance à l'occupant israélien et de la redistribution de ressources en cours dans la foulée de la reconstruction. Par contre, l'opposition revêtait dès le départ un caractère ouvertement chrétien et fut implicitement rejointe en 1998 par un Hariri redevenu franchement sunnite. On peut donc supposer le terme central de communautarisme obnubilé d'un côté et fortement éclairé de l'autre. La ligne partant de ce terme gagnerait à être remplacée par un angle. Au sommet, on mettrait Hariri, et à partir de lui, on placerait sur les côtés, en regard les uns des autres, les noms ou les symboles des forces politiques au pouvoir et dans l'opposition. Mais où placer alors l'arbitre syrien ? Eh bien, je suppose que nous devrons le charger de tenir la loupe et la torche, puisqu'il avait effectivement le pouvoir d'agrandir tel et de reléguer tel autre dans une cellule de prison. Au lendemain de l'attentat historique qui emporte Rafiq Hariri, le 14 février 2005, les deux manifestations de masse du 8 et du 14 mars marquent deux attitudes opposées vis-à-vis du retrait annoncé des troupes syriennes. Les législatives qui ont lieu dans la foulée de ce retrait provoquent un changement notable dans la donne politique en place. Par-delà l'opportunisme électoral incarné par l'alliance quadripartite qui regroupe le temps d'une campagne les grands adversaires des manifestations subventionnées, les deux camps arborant chacun pour enseigne la date de la manifestation qui l'a mobilisée, se forment rapidement et vont accaparer pendant une décennie la scène politique du pays. Le pouvoir, bien entendu, mais aussi l'opposition exercée, le cas échéant, de l'intérieur même du pouvoir. Ce qu'a porté de neuf cette dualité, c'était surtout de présenter toutes les formations représentatives de communautés comme irremplaçables au gouvernement. Autrement dit, d'exclure pratiquement toute formule stable de gouvernement autre que celle qui les réunirait toutes. Déjà, la sortie de guerre en 90 avait intronisé une formation unique à la tête de chacune des communautés principales, en sorte que n'était le diktat syrien l'exclusion de l'une de ces formations d'une formule gouvernementale suffisait pour battre en brèche la légitimité du nouveau gouvernement. Ce gouvernement avait beau obtenir la confiance d'une majorité parlementaire, il restait accusé de confier la représentation au pouvoir d'une des composantes de base du pays à des usurpateurs. C'est arrivé en juin 2011, lorsque la désertion de la coalition du 14 mars par le leader druze Walid Jumblat permit à un rival tripolitain de Saad Hariri de remplacer ce dernier à la tête d'un gouvernement dont la formation fut d'ailleurs fort laborieuse. Dès l'abord, le gouvernement Miqati, traînant la jambe parce qu'à sa tête, l'ayant droit sunnite était remplacé par un autre bien moins représentatif. L'arbitre syrien n'était plus là pour imposer un tel déséquilibre au nom d'un intérêt supranational dont il tenait seul le secret. Afin de parachever le tableau d'après 2005, quelques autres nouveautés sont à signaler. Le Hezbollah, qui s'était contenté depuis la fin de la guerre d'une représentation parlementaire, fera désormais partie intégrante de tous les gouvernements. Il y fait bloc avec Amal, l'autre grande formation chiite. Ensemble, ils représentent le cas exemplaire et bien durable de l'absence d'alternative qui rend normalement inamovible chacune des grandes formations exhibant au sommet du pouvoir l'enseigne d'une communauté. Même les chrétiens, dont deux formations longtemps rivales contrôlaient une grande majorité de leur représentation parlementaire, s'estimaient bien lésés lorsque la conjoncture politique faisait tomber leur part de pouvoir dans les mains d'une seule formation. En effet, leur ministre, ne représentant dans ce cas qu'une bien faible majorité, sinon une forte minorité, il se sentait affaibli face surtout à l'écrasante représentativité du duo chiite. Qui plus est, le Hezbollah au pouvoir restait armé jusqu'aux dents. Dans l'espace de 2 ans, il fournit successivement la preuve de sa capacité de fourvoyer le pays dans une guerre internationale et du fait qu'il n'hésiterait point, si le gouvernement se hasardait à le rappeler à une logique de souveraineté élémentaire, à faire main basse sur la capitale. Il n'est donc nullement surprenant que quelques années plus tard, le Hezbollah n'ait eu besoin de consulter personne au Liban avant de s'engager à fond aux côtés du régime syrien dans le conflit que l'on sait. En bref, l'ultime réalité que dévoilait l'évacuation du pays par les troupes syriennes impliquait que les mêmes formations politiques, représentants exclusifs des principales communautés, constituent toutes, à chaque échéance, le même gouvernement ou presque. Bien entendu, aucun gouvernement ne s'est montré inamovible dans les faits et les gouvernements que le pays a égrenés depuis 2005 se sont révélés assez différents les uns des autres. Ces différences, dues à des développements conjoncturels ou à des échéances constitutionnelles, n'ont pas empêché le pays de se débattre dans les affres d'une crise de système apparemment sans fin. Les gouvernements dits d'union nationale ou de grande coalition sont travaillés par de profondes discordes, limitant considérablement leur productivité et les menaçant à des intervalles limités d'implosion. Les ministres du 8 mars et ceux du 14 mars y échangent, selon le sujet débattu, le rôle paradoxal d'opposition intra-gouvernementale. Les gouvernements de majorité limitée, eux, souffrent forcément d'un déficit toujours dangereux de légitimité communautaire. D'ailleurs, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre de ces deux formules, les Libanais ont contracté l'habitude d'attendre pendant des mois le remplacement d'un gouvernement démissionnaire. Il en est allé de même des présidents de la République, dont deux ont réussi à faire proroger leur mandat, et les deux derniers n'ont pu se faire élire qu'au bout d'une longue vacance de la première magistrature de l'État. Enfin, si les élections promises ont lieu effectivement au printemps 2018, le pouvoir législatif, coiffé depuis un quart de siècle par le même président, aura mis 9 ans au lieu de 4 avant de se renouveler. Surtout au long des vacances gouvernementales ou présidentielles, le Parlement, lui aussi, a connu de longues périodes de torpeur. Cela étant, la pudeur des communautés ne pouvait que battre fortement de l'aile au cours de la longue décennie écoulée. Les principaux groupes politiques du pays affichaient désormais chacun son identité communautaire. L'ambition même de transgresser les frontières de la communauté s'était évanouie. En témoigne, par exemple, le projet de loi électorale présenté au début de 2013 par le Rassemblement orthodoxe et entériné au siège du patriarcat maronite par les principales formations politiques chrétiennes. À peine une grande formation de facture nécessairement monocommunautaire pouvait-elle entretenir un réseau de clients ou d'alliés, souvent mineurs, glanés dans d'autres communautés. Les vieux partis laïcisants se retrouvaient plus rabougris que jamais. Le parrainage saoudien du 14 mars et irano-syrien du 8 mars ne faisaient qu'enfler la dimension sunnito-chiite de la confrontation. Frappant d'un seul côté de la barricade, la série d'assassinats politiques qui marqua cette période creusait un fossé ensanglanté qu'il était fort difficile d'enjamber. L'acte d'accusation du tribunal spécial pour le Liban, en mettant en cause dans l'assassinat de Hariri des membres de Hezbollah, jouait dans le même sens. D'abord attribué au régime syrien, la chaîne de crimes dont cet assassinat constituait le maillon principal tendait maintenant à revêtir un caractère ouvertement confessionnel. Le passage en 2006 d'un partenaire important de la manifestation du 14 mars, le courant aouniste, au camp opposé, mitigeait peut-être le caractère islamo-chrétien de la confrontation en ajoutant de l'eau chrétienne au vin du 8 mars qui présentait un degré fort élevé de concentration chiite. C'est d'ailleurs une formation sunnite, le courant de Hariri, qui assumait la direction du camp du 14 mars. Qui plus est, la conjoncture régionale qui prenait de plus en plus une tournure de duel sunnito-chiite renouveler profondément la donne libanaise. Par conséquent, il était fort improbable que la plaie islamo-chrétienne de la guerre libanaise redevienne virulente. Bien en phase avec les développements régionaux, autant le bras de fer politique d'après la guerre de 2006 que l'occupation de Beyrouth en mai 2008 renforçait le caractère principalement intra-musulmans du nouveau clivage libanais. Pour en revenir encore une fois à la scénographie dont je dois l'idée au fameux mur de Rabbi Amroué, je trouve pertinent pour la période 2005-2016 de ranger les effigies désignant les groupes politiques libanais de part et d'autre d'une tranchée dont le point de départ serait le symbole dûment agrandi du communautarisme politique. On pouvait imaginer Michel Aoun, on pourrait imaginer Michel Aoun enjambant d'un saut brusque la tranchée et Walid Jumblat se plaire à maintenir un pied sur chaque bord. Réduit au rôle de brillant second du camp chiite par l'ascension fulgurante de Hezbollah et son intrusion dans la sphère gouvernementale, Nabih Berri pourrait être placé dans le giron du secrétaire général de ce parti, etc. Depuis l'intervention de Hezbollah en Syrie, qui a outrepassé unilatéralement le consensus abstentionniste scellé par la déclaration de Baabda, dont ce parti est co-signataire, le schéma esquissé en 2005 de la confrontation libanaise semble toucher progressivement à sa fin. La tournure prise par le conflit syrien et le désengagement saoudien des affaires libanaises défavorise considérablement le camp du 14 mars, jusqu'au point que cette appellation même est désormais traitée de caduque par les intéressés. La réconciliation du courant patriotique libre, aouniste, avec les forces libanaises en janvier 2016 rétablissait dans le camp chrétien une hégémonie relative, certes moins exhaustive que son homologue chiite, mais comparable à celle plus relative qui règne du côté sunnite. Ce développement, qui mettait pratiquement fin à la principale rivalité chrétienne, souvent perçue comme preuve de vitalité démocratique, rendait incontournable la candidature de Michel Aoun à la présidence de la République, alors vacante depuis 15 mois. Aoun était l'allié et le candidat déclaré de Hezbollah. La même réconciliation assénait un coup dur au rassemblement, Aoun étant l'allié et le candidat déclaré de Hezbollah, la même réconciliation assénait un coup dur au rassemblement du 14 mars. Cependant, le coup fatal qui, en octobre, fit suite au précédent, vint de Saad Hariri, principale figure dirigeante du dit rassemblement, qui, en échangeant son appui à Aoun contre l'assurance d'obtenir aussitôt ce dernier élu la présidence du Conseil des ministres, procurait au vieux général aussi bien la majorité requise pour son élection que la couverture sunnite dont il avait grandement besoin. Avec Hariri et Jaja, maintenant très soucieux de ménager Aoun, mais toujours hostile à la ligne politique unilatéralement suivie par le Hezbollah, qui, tout en siégeant avec eux au Conseil des ministres, demeure l'allié principal du courant aouniste, le spectacle politique du Liban n'est plus ce qu'il était. Les pommes de discorde n'ont pas disparu pour autant. Mais au lieu de la tranchée d'hier, nous avons affaire désormais à un réseau de barricades dont chacune abrite un frondeur en puissance. La plupart sont érigées sur la table même du Conseil des ministres. Dehors, il ne reste que des formations plutôt marginales pour faire figure d'opposition. Dans le proche avenir, il est probable que la volonté de préserver la formule gouvernementale en place limitera la portée des petites guerres intestines, ce qui ne suffira sans doute pas à réduire l'impact des changements en cours sur les rapports intercommunautaires dans le pays. ni la masse des sunnites, ni celle des chrétiens n'acceptera la montée en puissance de Hezbollah, qui, tout en noyautant l'État, s'arroge des attributs de souveraineté, dont surtout celui de faire la guerre, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières nationales. La tendance d'autres chefs politiques à modérer leur réaction à ce défi, en vue d'éviter le pire et de préserver le partenariat en place, risque de les faire déborder par les franges les plus échaudées de leur clientèle. Ce qui rend cette dernière hypothèse plus plausible, c'est l'échec récurrent des gouvernements successifs à traiter des problèmes vitaux tels que celui de l'inflation bien considérable, celui de la production déficitaire d'énergie, celui de la dégradation de l'environnement, celui du traitement des déchets, sans oublier celui des disparités régionales et de l'aggravation des inégalités sociales et du chômage qui poussent vers l'extérieur du pays la jeunesse qualifiée et offrent d'autres en proie docile aux patrons politiques. Le système communautaire tendant à protéger les siens et décourageant toute velléité de demander des comptes aux grands corrompus, les ministères et même les organes sécuritaires tendent à se transformer dans diverses mesures en fiefs communautaires, tendance qu'encourage le maintien de responsables successifs provenant de la même communauté à la tête de tel ministère ou organe de sécurité. Autant le gonflement des effectifs que la corruption envahissante deviennent partie intégrante du fonctionnement de ce système. Le ratio sur le PIB de la dette publique qui entretient ce gaspillage, plus de 140%, est désormais le troisième du monde après ceux enregistrés au Japon et en Grèce. Il est aggravé par un taux de croissance en déclin et un déficit budgétaire qui brave les tentatives de réduction. La polarisation politique empêche même, depuis 11 ans, la promulgation d'un budget annuel en règle de l'État. Les gisements d'hydrocarbures cernés au large des côtes il y a 7 ans ne connaîtront pas bientôt un début d'exploitation. La rumeur attribue le retard des adjudications à des différends relatifs aux commissions exigées. Les cahiers des charges préparés sont accusés par l'expert chevronné Nicolas Sarkis de sacrifier l'intérêt national en adoptant une formule de partenariat importée d'un autre âge. Ce qui s'expliquerait sans doute par le désir d'amadouer les compagnies intéressées, à charge pour celles-ci de verser aux responsables des commissions faramineuses. Les formations politiques importantes demeurant de facture communautaire, les nouvelles failles sismiques qui se dessinent à travers la société politique revêtiront le même caractère. Il en ira de même des crises à venir. Même un chamboulement financier provoqué par l'explosion de la dette publique ou encore par le marasme qui frappe le secteur immobilier pourra susciter des interprétations communautaires contradictoires. Pourtant, aucun groupe au pouvoir ne peut se dire innocent de la course ininterrompue vers l'abîme. Sur le plan des discours, c'est aujourd'hui du côté des laïcisants, faux ou sincères, que l'on assiste à un excès de pudeur. On évite le vocable « daula almaniya » état laïque, y préférant « daula madaniya », traduction inexacte de la notion lockienne de « civil government ». J'ai rappelé ailleurs avec quelle aisance cette dernière notion put être récupérée par un salafiste égyptien. Le government travesti en État me semble dissimuler une volonté de laïcisation à la sauvette, ayant peur d'avouer son nom. En tout état de cause, les partis au pouvoir qui se disent à certains moments bien choisis attachés à la Daoula Madaniya ne se sont jamais montrés chauds ni persévérants quand il s'est agi de mesures partielles à prendre, rendant moins fictif le but ultime. Autant le sort réservé à l'abolition du communautarisme politique, pourtant stipulé par la Constitution après l'accord de Taïf, que les débats récurrents relatifs à la loi électorale ou encore la revendication d'une option civile en matière de statut personnel ont montré la faiblesse du courant laïque dans le pays. Faiblesse qu'expliquerait aisément la complexité et l'épaisseur historique du filet tissé par la pratique du communautarisme autour des individus et des ensembles d'individus, les privant d'autonomie par rapport aux chefferies de leurs communautés respectives et faisant de la crainte réciproque l'ultime modalité des relations entre ces dernières. Toutefois, cette solidité des attaches, qui ne va nullement sans malaise de diverses sortes, n'empêche guère le système de s'emballer. Depuis bien longtemps déjà, il donne l'impression d'être incurablement grippé. Les facteurs internes de dysfonctionnement sont multipliés par les influences extérieures dont le système, de par sa nature, est particulièrement friand. Difficile à cerner d'avance le jeu changeant de ces influences, plus encore que celui des données autochtones, rend difficiles les pronostics relatifs aux horizons de la crise systémique que nous vivons. Il vaudrait mieux maintenir à portée du regard le mur entier de Rabih Amrououi afin de rester, du moins sur le plan de la représentation, en mesure de faire face à toutes les éventualités. Je vous remercie de votre attention.